On écoutait un thème avec Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu. On est maintenant avec Thio.
Oui.
Et
Geneviève,
oui, excusez-moi. Puis vous allez nous parler du théâtre de l'opprimé.
Ben oui, moi en fait, j'ai eu un petit coup de cœur pour un livre qui s'appelle Théâtre de l'opprimé, écrit par Augusto Boal, pardon. Peut-être pour vous en parler un peu, c'est un livre que j'ai découvert qui est dans la petite collection Maspero. Je pourrais peut-être vous commencer par vous parler de cette collection-là, en fait. Donc, pour faire une brève histoire de la collection Maspero, c'est en 1955 que François Maspero a fait l'achat d'une librairie, en fait, dans un quartier latin. Puis, il a tenu cette librairie-là jusqu'en 1959, où est-ce qu'il a décidé de créer les éditions Maspero, qui étaient engagées à gauche, comme on les connaît toujours,
oui.
Avec des partenaires comme Marie-Thérèse Mauguis, Jean-Philippe Bernigaud, Émile Kopferman, puis Franchita González-Bado. Puis, c'est ça. Bon, ben en fait, les deux premières collections des éditions Maspero étaient marquées par un contexte particulier, avec séparées par deux axes, en fait, qui est la guerre d'Algérie puis la contestation du stalinisme. Plus tard, dans les années 60, les publications Maspero y accordent une importance particulière aux questions de sous-développement et de néocolonialisme. Puis après ça, bon, la collection Maspero s'agrandit avec une collection sur l'histoire classique. Donc, en 1968, les éditions Maspero connaissent une grosse affluence, mais frappées d'interdiction à cause des ouvrages dits subversifs. Donc, François Maspero et toutes les personnes qui ont parti les éditions reçoivent beaucoup d'amendes onéreuses, des peines de prison ou des privations de services civiques.
Est-ce que tu as quelques exemples d'ouvrages dits subversifs?
Oui, c'est ça, exactement, des exemples de livres. Bon, ben, il y a le Théâtre de l'opprimé qui en est un, il y a Littérature et Révolution de Victor Serge. Sinon, les sujets, peut-être pas des titres de livres précis, mais les sujets auxquels ça tourne, c'est comme mouvement révolutionnaire arabe, culture prolétarienne, impérialisme, l'imagination sociologique, les mouvements ouvriers, mouvements étudiants, les mouvements noirs aux États-Unis, entre autres, des mouvements syndicalistes et tout ça. Donc, ensuite, bon, ben, c'est fait un petit tour quand même de la collection Maspero pour vous parler peut-être plus de l'auteur qui est Augusto Boal. Augusto Boal, c'est un écrivain, un dramaturge, un théoricien. Il a été homme politique et un homme de théâtre fervent. Donc, en 1956, son histoire commence, je ne sais pas en quelle année il est né exactement, mais en 1956, il devient directeur artistique et metteur en scène jusqu'en 1964. Puis de 1956 à 1964, il va développer une forme de théâtre populaire, une forme de théâtre de rue, de théâtre contestataire finalement. Donc, considéré comme un théâtre social dit encore une fois subversif, Augusto Boal va être obligé, ben il a été arrêté et torturé, il va être obligé de s'exiler en France.
Et ça au Brésil?
Hein? Oui, il est brésilien, effectivement. Donc, il va rester en France, c'est là qu'il va poursuivre son travail. Par la suite, il va aller en Amérique du Sud dans les années 70, souvent faire le tour de l'Amérique du Sud, puis expérimenter diverses sortes de théâtre de rue populaire, etc. En 1981, il a tellement bien poursuivi son travail que finalement, en 1981, il y a le premier festival international de l'opprimé qui a lieu à Paris, puis qui se poursuit encore jusqu'à encore aujourd'hui. Augusto Boal travaille encore sur le théâtre et tout ça. Sinon, quelques livres peut-être vite de Augusto Boal. On parle de Jeux pour acteurs et non-acteurs, Théâtre en lutte, le théâtre militant en France des années 60 à aujourd'hui et le théâtre de l'opprimé, entre autres. Peut-être pour parler plus maintenant du théâtre, du livre en tant que tel et du contenu, l'objectif énoncé par Augusto Boal en début de livre, c'est de montrer que le théâtre, dans son intégralité, est nécessairement un fait politique. C'est quelque chose de politique puisque c'est une activité de l'homme et que toutes les activités de l'homme sont politiques. Puis la deuxième raison pour laquelle il a écrit ce livre-là, c'est de donner des preuves du fait que le théâtre, c'est une arme efficace. Puis que c'est entre autres pourquoi la classe dominante essaie de façon permanente de confisquer le théâtre à la masse, finalement. Bon, selon Boal, le théâtre peut être une arme de libération. C'est pour ça qu'on appelle ça du théâtre de résistance. Ce qu'on nous rencontre dans ce livre-là, c'est qu'à l'origine, le théâtre était quasiment un carnaval, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de frontière entre les spectateurs et les acteurs. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les classes dominantes se sont emparées du théâtre et ils se sont mis à établir des cloisons, par exemple, entre l'acteur et le spectateur. L'acteur devient l'objet actif et le spectateur reste
passif.
Passif, exactement. Puis, entre les acteurs aussi, on a commencé à établir la culture dominante, a commencé à s'immiscer aussi entre les acteurs, c'est-à-dire qu'il y avait une division entre les protagonistes et la masse. Bon, ça, c'est ce que Augusto Boal parle d'un début d'endoctrinement coercitif. C'est à partir de ce moment-là qu'on doit parler de réappropriation du théâtre par le peuple.
Okay, donc, c'est de faire un retour vers ce qui était le théâtre au départ, qui était, si on veut, une manifestation plus populaire.
Exactement. C'est de dire au spectateur qu'on se remet à jouer. Le spectateur se remet à jouer à faire du théâtre invisible, du théâtre forum, du théâtre image. Bref. Donc, le théâtre de Le Frimé, finalement, c'est un essai qui montre comment que le peuple reprend sa fonction d'acteur principal au sein de la société. Selon Boal, la transformation du spectateur en acteur se synthétise en 4 étapes. La première, c'est de connaître son corps. C'est la prise de connaissance de son corps, de ses limites, de ses possibilités, de ses déformations sociales et des moyens de combattre ces déformations sociales-là. Par exemple, quand tu es travailleur, veux pas, ton environnement de travail va conditionner la façon dans laquelle tu vas avoir ta posture, tu vas être plus penché, plus soumis peut-être, si tu es concierge ou peu importe. Donc, c'est de ça, c'est en quoi consiste la première étape. La deuxième étape serait de rendre son corps expressif, c'est-à-dire apprendre à s'exprimer autrement que ce que l'on fait quotidiennement, habituellement. La troisième étape serait d'apprendre à pratiquer le théâtre comme un langage vivant et actuel au lieu de considérer ça comme quelque chose passé. Donc, on parle ici de dramaturgie simultanée, de théâtre image, de théâtre forum. Je vais revenir peut-être plus tard où est-ce que le théâtre forum, où je peux peut-être en parler aujourd'hui. J'en parlerai plus tard. Donc, la quatrième étape serait d'envisager le théâtre comme discours où l'acteur-spectateur présente des spectacles déterminés par son besoin de discuter de certaines questions ou tenter certaines actions. Donc, on parle ici soit de théâtre journal. Le théâtre journal se divise en plusieurs façons de jouer, en fait. C'est, par exemple, prendre un article, jouer l'article, l'ôter de son contexte, essayer de rajouter de l'information autour d'un article ou peu importe. Puis, on parle aussi de riposte à la répression. Cela, riposte à la répression, c'est quelque chose que j'aurais voulu parler parce que c'est particulièrement intéressant. C'est quelque chose que j'ai eu la chance de vivre il y a quelques semaines de ça à Toujours Rebelle, qui était le rassemblement féministe qui a eu lieu à l'Université du Québec à Montréal. Puis, c'est ça. Donc, la riposte à la répression, en fait, c'est que quelqu'un prend un exemple dans lequel il a été opprimé. Par exemple, une femme, je vais peut-être compter mon expérience que j'ai eue à Toujours Rebelle. En tant que femme, on a chacun exprimé une situation dans laquelle on s'était senti opprimé par un homme. On a pris cette situation-là, puis on l'a joué en groupe tel qu'elle s'était passée. Il fallait que ce soit une situation où est-ce qu'on a été opprimé, mais qu'on n'a pas réagi face à cette oppression-là. Donc, c'était de la jouer telle que la scène s'était produite la première fois. Puis, la deuxième fois, c'était de répondre à cette répression-là. Puis, qu'est-ce que ça permet de faire, entre autres, la riposte à la répression, c'est que la personne voit ce qu'elle aurait pu faire, puis ça permet de prévenir une prochaine de donner des moyens de vaincre une oppression prochaine.
Développer des mécanismes de riposte, si on veut.
Exactement. Donc, ça fait pas mal le tour de ce qui est le théâtre de l'opprimé. Je vous suggère de lire. C'est une belle lecture qui est assez rapide.
Oui, pour ce qui est de notre part, on va faire une courte pause puis on va revenir sur le sujet tout de suite après. Donc, on va aller écouter une chanson de Bérurier Noir qui est quand même très connue. Ça va être « Salut à toi ». On écoutait Galaxie 500 avec la chanson Galaxie 500, le même nom. Puis on est avec Thio et Geneviève qui nous parlent du théâtre de l'opprimé. Donc,
moi, en fait, je ne parlerai pas nécessairement du théâtre de l'opprimé, je vais plutôt parler du théâtre engagé, le théâtre engagé qui est né après la Deuxième Guerre mondiale. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a deux grandes tendances au niveau du théâtre qui se sont développées. Il y a eu celle du qui est plus issu du nihilisme, donc un théâtre absurde, avec un éclatement formel qu'on a surtout vu avec Beckett et Pirandello, et aussi un théâtre engagé qu'on a surtout vu représenté par Sartre, Camus et Bertolt Brecht. Donc, c'est un théâtre qui se veut comme un théâtre de lutte contre l'oppression sociale et politique. Puis, si on veut, ce dont vous a parlé Thiro un peu avant moi, c'est un théâtre qui est issu un peu des bases théoriques qui ont été établies à partir de ce moment-là, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Sartre et Brecht se sont positionnés contre l'idée de fatalité au théâtre. L'idée de fatalité, c'est-à-dire que la résolution, quand on voit une pièce de théâtre, est déjà déterminée à l'avance. Donc, c'est soit Dieu, soit le destin, ou alors les conditions sociales qui déterminent un peu la valeur idéologique de l'œuvre. Eux, ils se sont plutôt positionnés un peu dans une position d'après-guerre, c'est-à-dire dans une conscience que l'humain est responsable de ses actes et doit en assumer les conséquences. Donc, au niveau du théâtre, ça s'est répercuté en un théâtre qui se voulait un moteur de changement social. Sartre, de son côté, a proposé un théâtre de situation avec des situations métaphoriques dans lesquelles des individus avaient des choix à faire. Et puis, c'était vraiment le but, c'était que le spectateur se sente interpellé par ces situations-là, puis voit un peu par où le changement social était possible. Du côté de Bertolt Brecht, lui, il a voulu éveiller les consciences plus à un niveau formel, donc en déconstruisant la forme théâtrale habituelle et en s'opposant radicalement au fatalisme qui était présent dans le théâtre auparavant. Donc, moi, je vais vous parler plus précisément de Bertolt Brecht, qui est un dramaturge, metteur en scène, théoricien de théâtre allemand. Il est né en 1898 et il est décédé en 1956. Je vais vous faire une brève biographie qui est assez intéressante. Donc, Brecht a participé à la Première Guerre mondiale et a été vraiment marqué par cette expérience-là. Ça va se répercuter beaucoup sur son œuvre future puis sur ses pensées théoriques. Dans l'entre-deux-guerres, il a écrit quelques pièces qui ont montré surtout son côté anarchiste et qui ont suscité beaucoup de polémiques. Malheureusement, on a beaucoup perdu de ces pièces-là parce que en 1933, il s'est fait exiler d'Allemagne à cause de ses positions marxistes à ce moment-là. Il s'était marié avec une très grande marxiste nommée Hélène. Et à cause de la montée du nazisme en Allemagne, il se fait exiler. Et le 10 mai de la même année, en 1933, donc, ses œuvres vont être interdites et brûlées sur la place publique, donc un auto-da-fé. Donc, Brecht va ensuite, suite à son exil, il va parcourir l'Europe et puis il va s'installer en Californie en 1941. En 1948, il va retourner en Allemagne et va fonder le Berliner Ensemble, qui est en fait une compagnie de théâtre très subversive. Et puis, à ce moment-là, ces textes vont commencer à être publiés et traduits en France, ce qui va avoir une grande importance, une grande influence, pardon, surtout sur Jean-Paul Sartre et tous les dramaturges à l'époque, puisque ces théories vont vraiment changer la façon de voir le théâtre. En fait, ce qui va arriver, c'est que Brecht va reprendre les théories de Piscator, qui avait fait des théories sur le théâtre épique. Le théâtre épique, en fait, c'est un théâtre dans lequel on va insister sur un effet de distanciation. Donc, c'est en fait une théorie un peu qui s'oppose à au théâtre aristotélicien, c'est-à-dire un théâtre d'identification. Le théâtre d'identification, je vous explique, c'est quand vous écoutez une pièce de théâtre et puis vous associez à l'acteur qui est en train de jouer la pièce, que l'acteur vous fait croire en fait que c'est vraiment la réalité qui se déroule sur la scène et puis vraiment la séparation qui existe entre le public et la scène. Donc, il va vouloir abolir le quatrième mur qu'on appelle, qui est ce mur qui existe ou qui n'existe pas de manière symbolique entre le public et la scène qui est jouée sur scène.
Entre la passivité puis l'activité.
Exactement. Donc, la distanciation ou l'effet d'étrangeté, c'est de rendre étranger ce qui paraît naturel. Donc, c'est de susciter une réflexion plutôt que des émotions. C'est ce que va tenter de faire Brecht. Dans ses théories, en fait, c'est ce qu'il va développer. Donc, c'est un théâtre qui a pour but de montrer aux spectateurs qu'il a un pouvoir de transformation sociale. Dans le théâtre épique, l'acteur ne doit plus raconter, il doit plus raconter, en fait, poser des réflexions sur scène qu'incarner un personnage. Il doit susciter une réflexion plutôt qu'une identification de la part du spectateur. Donc, c'est de rompre avec l'illusion théâtrale pour pousser le plus possible le spectateur à la réflexion. Donc, pour ce faire, Bertolt Brecht va proposer une nouvelle structure au théâtre. Il va faire un théâtre dans lequel il y a une suite de tableaux qui sont entrecoupés par une narration qui sort totalement du cadre de la fiction. Donc, dans ces narrations-là, qui sont souvent des intermèdes chantés, qu'on va appeler des songs, il y a le narrateur qui va annoncer à l'avance ce qui va se produire dans le tableau suivant. Donc, à partir de ce moment-là, le spectateur n'est plus brouillé par ses émotions lorsqu'il voit la scène, puisqu'il est déjà au courant de ce qui va arriver. Donc, il pose un regard critique sur la scène qui va se dérouler par la suite. Donc, son théâtre est toujours entrecoupé de songs comme ça qui viennent expliquer aux spectateurs ce qui va arriver. Donc, on se distancie vraiment d'un théâtre de divertissement, d'un théâtre uniquement fictif, pour devenir un théâtre vraiment de réflexion. Ensuite, Brecht va aussi contester le déterminisme inhérent à toute histoire linéaire, parce que ces tableaux-là ne seront pas faits de façon chronologique nécessairement. Il va y avoir un bris de la linéarité qui amène aussi un questionnement, une façon de voir le théâtre différemment. Donc, sa théorie comprend aussi un axe sur le jeu de l'acteur et sur la mise en scène qui vont briser radicalement la vision du théâtre qu'on avait auparavant. D'abord, le jeu de l'acteur, il va instaurer deux principes principaux, c'est-à-dire que l'acteur ne doit pas s'identifier au personnage et aussi que le spectateur ne doit pas s'identifier au personnage. Donc, ni l'acteur, l'acteur ne doit pas incarner le personnage. Il doit vraiment juste livrer une performance qui n'est pas celle d'un personnage pour que le spectateur soit conscient que ce qu'il est en train de voir, ce n'est pas la réalité.
C'est de la fiction.
C'est de la fiction. C'est vraiment de mettre en scène que c'est du théâtre. Le théâtre, c'est du théâtre.
Finalement, pas besoin d'être bon acteur.
Exactement. Il détruit complètement toutes les façons de voir le jeu de théâtre là, jusqu'avant ça. Donc, le spectateur est donc au courant qu'il y a un metteur en scène qui est là et qu'il fait des choix signifiants, donc qui vont influencer son point de vue. À ce moment-là, le spectateur peut vraiment poser un regard critique sur ce qui est joué. Du côté de Sartre, on illustrait plutôt la nécessité d'un engagement parce qu'on mettait en situation des acteurs qui incarnaient vraiment un rôle, mais le spectateur pouvait voir que, ah oui, là, il y a un problème, c'est pas comme ça qu'on devrait réagir en société. Ce que Brecht fait de plus radical, c'est qu'il met en forme les conditions nécessaires à l'émergence de cet engagement-là. Parce que non seulement le spectateur se sent interpellé, il se sent comme quelqu'un qui est capable d'avoir un pouvoir dans le changement social. Donc, cependant, il y a eu un très grand reproche fait à Brecht, c'est qu'il y avait vraiment un théâtre qui était très didactique, absolument pas divertissant. Mais c'est surtout ses théories et non ses pièces qui ont été retenues dans l'histoire, dans le développement du théâtre social, du théâtre forum, comme on va le voir naître plus tard, dans les années 70. Donc, il va avoir aussi une très grande influence sur la forme du théâtre, donc l'affirmation de la théâtralité, le bris de la linéarité, la fragmentation du récit qu'on voit ici dans notre ère postmoderne, toujours dans les œuvres créatrices, donc vraiment le désir de faire de l'autoreprésentation, tout ça, on peut voir que c'est pas né aujourd'hui, là, ça vient de très longtemps, exactement. Donc, c'est un peu une évolution logique des théories de Brecht qui ont été développées là, dans les années 50, après l'après-guerre, puis ensuite par Boal. Donc, c'est surtout de montrer que l'art n'est pas un art élitiste, puis que la solution vient du citoyen, vient du spectateur.
Est-ce qu'il y a beaucoup de pièces de théâtre de Brecht qui ont été jouées au Québec ou en Amérique du Nord?
Je suis vraiment pas au courant. J'en ai jamais entendu parler.
T'en connais même pas une pièce?
Une pièce? Non, j'en ai lu parce que j'avais un cours avec la merveilleuse Isabelle Boisclair, qui est une professeure très intéressante à l'Université de Sherbrooke, qui fait un cours sur le théâtre, dans lequel elle nous introduit vraiment beaucoup au théâtre engagé. Puis chapeau, Isabelle, parce que vraiment, ça nous permet d'avoir un autre point de vue sur ce qu'est le théâtre. Parce que justement, quand on étudie en littérature dans un baccalauréat, on a souvent peut-être une vision un peu plus classique, un peu plus académique, si vous voulez, du théâtre et de la littérature en général. Puis ce qu'a fait Isabelle, je pense, c'est vraiment désacraliser ça puis nous montrer qu'il y a d'autres choses. Il y a du théâtre citoyen, il y a du théâtre forum, puis il y en a qui se fait encore aujourd'hui. Donc, c'est ça.
Oui, puis moi, j'aimerais ça qu'on revienne un peu sur le rôle que peut jouer le théâtre de l'opprimé qu'on a parlé un peu plus tôt. Dans le fond, le rôle que ça peut occuper par rapport au spectateur qui fait partie prenante, si on veut, de l'action qui se déroule, puis aussi de la conscientisation qu'il peut prendre au cours de l'exercice.
Oui, ben en fait, le théâtre de l'opprimé, qu'est-ce que ça permet de faire, je pense, c'est que en fait, ça permet aux gens qui font partie, bon, de la masse, ben, qui font partie du peuple, de se rendre compte qu'ils vivent certaines situations oppressantes. Par exemple, les hommes sur les femmes, les vieux sur les jeunes, ou bien on parle des riches sur les pauvres.
Puis j'imagine que les gens, une fois qu'ils jouent un certain rôle, ils se rendent compte qu'ils peuvent faire une certaine différence, à quelque part.
Oui, exactement. Par exemple, dans Augusto Boal, le théâtre de Primé, qu'est-ce qu'il exprime, en fait? C'était une expérience qu'il a faite au Pérou, qui était pour vaincre l'analphabétisme au Pérou, en fait. Puis, il passait ça à partir du théâtre. Donc, ça permettait aux gens de comprendre pourquoi ils étaient dans telle situation, puis face à telle situation, comment réagir. Ça leur permettait, en groupe de gens vivant dans un même contexte économique, de trouver des solutions aux situations auxquelles ils vivent, par exemple, une guerre civile ou bien travailler dans une usine où est-ce qu'ils ont des conditions de travail qui sont affreuses et tout ça. Puis ça permet de mettre en scène ça puis de développer, justement, des techniques.
Oui, bien dans le fond, c'est d'accumuler une certaine connaissance dans certaines situations. Donc, c'est quelque chose de très pédagogique, si on veut.
Bien, c'est quelque chose, oui, c'est quelque chose qu'on peut voir de pédagogique.
Bien, admettons qu'on veut percer un milieu syndical pour leur faire comprendre certaines choses, ça peut être un bon outil.
Oui, bien, exactement.
Oui, dans le fond, juste pour partager qu'il y a eu une pièce de théâtre récemment qui s'appelait La Slag, puis ça porte, ça faisait un peu référence au mouvement dans les mines dans les années 70 au Québec. Donc, cette pièce de théâtre-là porte le même nom qu'un journal d'organisation ouvrière qui était distribué au sein des communautés d'ouvriers miniers. Donc, oui, je pense qu'il y a vraiment de quoi à faire au niveau de la conscience de classe.
Puis peut-être dire que c'est une forme de théâtre qui a été reprise beaucoup par les féministes, entre autres des années 60-70 au Québec. Ça permet aux femmes de se rendre compte, bon, comme j'ai dit tantôt, de leur oppression, de trouver des moyens de vaincre cette oppression-là. Puis ça permet aussi aux femmes de se réapproprier un espace auquel il n'y a pas nécessairement beaucoup accès et tout ça.
Moi, je pourrais peut-être citer un exemple auprès des jeunes. Moi, quand j'étais à l'école secondaire, je me souviens très bien, je peux même pas me souvenir du nom de la pièce ou quoi que ce soit, mais je me souviens qu'il y avait une troupe de théâtre comme ça qui était venue, qui faisait du théâtre forum, puis qui avait fait de la prévention sur la toxicomanie. Puis quelque chose qu'on trouve souvent plate un peu, c'est que c'est un professeur qui nous en parle, c'est une autorité, alors que là, c'était des jeunes qui étaient là, qui nous montraient devant nos yeux des situations problématiques, puis les jeunes étaient invités à aller changer la situation, à dire ce qu'ils en pensaient. Puis sérieusement, je m'en souviens encore, puis ça m'a vraiment marqué beaucoup plus que mes cours de morale ou de quoi que ce soit là, que j'ai eu au
ça
secondaire.
Ça permet de faire une prise de conscience situationnelle.
Exactement.
Et collective.
Oui. Puis il y a aussi le théâtre des petites lanternes qui est une... une compagnie de théâtre là, à Montréal qui font du théâtre forum comme ça. Ouais. Par exemple, il y avait une pièce dont je me souviens plus le titre non plus, mais qui parlait de l'itinérance. C'était vraiment intéressant. Les gens dans le public pouvaient aller réagir. Puis ça parlait vraiment des rues de Montréal, ce qui se passe aujourd'hui. Puis c'est des gens aussi qui peut-être n'étaient pas intéressés par cette situation-là, mais de l'avoir développée comme ça devant leurs yeux, leur permet de prendre une conscience puis de voir qu'ils peuvent être aussi des acteurs de changement dans cette situation-là, même s'ils pensent qu'ils sont éloignés de cette situation-là.
Puis il y a entre autres aussi des pièces qui ont été faites dans le même style à propos du trafic humain. En fait, c'est des pièces qui passaient de cégep en cégep et d'université en université qui permettaient aux jeunes de cette cité-là de voir une situation jouée sur scène puis de lancer des suggestions qui étaient jouées par les acteurs sur scène pour ensuite voir les conséquences de cette action-là posée. Puis, c'est ça, dans le fond, ça permet de partager. Là.
Génial. Donc, est-ce que ça ferait le tour de votre présentation sur le théâtre de l'opprimé?
Ben oui, ça nous a fait plaisir d'être là.
Je vous invite à vous informer sur le sujet, puis à lire.
C'est nous qui vous remercions quand même d'être venu nous faire une présentation aussi complète de la chose.
Ben merci.
Merci.
C'était super intéressant.